BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommeret.
C'est l'émission qui tente d'enrichir vos après-midi et de vous enrichir quand même aussi. Bienvenue à tous, il est là en fil rouge, Antoine Larrigaudry. Rebonjour Antoine.
Bonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Allez, la feuille, hein, oui. L'angoisse de la feuille blanche. Oui. On sort d'un super deuxième trimestre. On commence le troisième par une baisse assez marquée, -0,9% pour le CAC 40, 8328 points. Un petit peu de volatilité là depuis le début d'après-midi. Et puis une tendance mitigée du côté de Wall Street, le Nasdaq -0,3%, 26138 points. Mais le Dow Jones qui s'est bien démarqué, qui gagne 0,19%, la parole à la bonne vieille industrie.
Oui, et un deuxième semestre à suspense hein, qui démarre. Les publications des entreprises américaines seront-elles aussi bonnes qu'en début d'année? Les mid-termes aussi qui animeront ce deuxième semestre en bourse début novembre et bien sûr la politique américaine. On fera un tour d'horizon dans un instant avec nos experts des grands enjeux qui nous attendent. En attendant, des bonnes nouvelles hein, sur le front de l'inflation. Elle continue de ralentir. On avait hier les chiffres français et allemands. Aujourd'hui, c'est l'inflation zone euro qui ressort sous les attentes à 2,8% au mois de juin. Alors vous verrez ce qu'en dit Christine Lagarde. Elle s'est exprimée là cet après-midi à Sintra. Et Kevin Warsh aussi, son alter ego de la Fed. C'est la première fois que Kevin Warsh, comme président de la Fed, s'exprime ailleurs qu'aux États-Unis, puisqu'il est ici en Europe. Et ses propos du jour sont très clairs, très cash. Ce sera très intéressant de les analyser dans une poignée de secondes. Du côté des valeurs, Schneider Electric perd 4% après l'annonce d'une acquisition à 3 milliards de dollars. Elle a du mal à passer cette acquisition. Pourquoi et quel potentiel pour la suite? Réponse pour le coup, ce sera à partir de 17h35. BFM Bourse sur l'ensemble de ces enjeux de marché et BFM Business sur tous les ballons de l'actualité. À suivre aussi les immatriculations de voitures neuves en France. Elles ont augmenté de 11,4% en juin sur un an. Mais une hausse en trompe-l'œil car si on tient compte des deux jours ouvrés supplémentaires cette année, la hausse n'atteint plus qu'1,2%. La progression des voitures électriques se poursuit en tout cas avec quasiment 30% de part de marché. Le nouveau congé de naissance entré en vigueur aujourd'hui, il permet à chaque parent de prendre 1 à 2 mois en plus des congés jusqu'ici existants, donc 1 à 2 mois de congés de naissance supplémentaires désormais. Il est également ce nouveau congé de naissance mieux indemnisé, 70% du salaire net le premier mois, 60% le second avec un plafond à 4000 euros. Enfin, l'administration Trump a levé toutes les restrictions sur les modèles d'IA les plus puissants d'Anthropique. Anthropique s'est engagé pour cela à détecter, traiter de façon proactive les risques de sécurité. Plus de détails avec Edwige, Edwige Chevrillon à partir de 18h. On est avec vous, on joue dans votre camp, c'est BFM Bourse. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, Romain Aumont nous rejoint, macroéconomiste, stratégiste pour Natixis IM. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour. Et Thibaut Prébé, toujours en fil rouge, le président de ECAT et auteur de Démographie, la bombe tranquille. ECAT, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça?
ECAT. La déesse de la magie et des carrefours, voilà, qui est une déesse évidemment très importante. C'est aussi un peu le nom de mes filles, ma femme et mon chat.
Ils ont même prénom.
Allez, ça intéresse sûrement beaucoup les éditeurs de savoir que mon chat s'appelle Hermine, donc ça fait un bon début pour ECAT. Intéressante. Hein.
Vous avez suivi, Romain. Bon, on va revenir au marché quand même, parce que là, peut-être le fil est plus simple.
Et vous posez des questions, je réponds, hein, si je vous ai pas forcé. Ouais,
on est dans la spontanéité. C'est pas mal, début de semestre intéressant en tout cas. On est en hausse à Wall Street, encore en hausse, +0,1% pour l'indice S&P. En revanche, en Europe, on baisse de 0,9%. Alors Christine Lagarde s'est exprimée depuis Sintra, parce qu'il y avait une grande table ronde à Sintra cet après-midi, à laquelle participait aussi Kevin Warsh. Elle dit, Christine Lagarde, qu'il n'y a pas à ce stade de stagflation en Europe, on n'est pas dans la stagflation. Elle dit que les risques sont de mieux en mieux équilibrés, en tout cas plus équilibrés qu'il y a quelques semaines en matière et de perspective d'inflation et de perspective de croissance. Voilà ce que dit Christine Lagarde cet après-midi. Donc, elle était interrogée alors qu'on a eu le chiffre d'inflation de la zone euro du mois de juin et qu'elle ralentit vraiment grâce au pétrole. Donc, on était curieux de savoir ce qu'elle dirait. Elle dit donc que les risques sont en train de se rééquilibrer sur l'inflation.
Elle est fondamentalement confrontée à la réalité des chiffres. On avait une Banque Centrale Européenne qui était un petit peu dogmatique, qui avait perdu son pragmatisme et qui essayait d'ancrer des anticipations d'inflation qui, selon elle, étaient en train de déraper, mais qui ne dérapaient pas vraiment. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, on se retrouve face à cette réalité où on a une désinflation, à la fois dans l'inflation totale, mais également dans l'inflation sous-jacente. Il n'y a absolument aucun signe d'effet de second tour dans l'inflation européenne suite au choc énergétique. Et on a finalement une Banque Centrale Européenne qui doit se ranger du côté de certains stratégistes comme nous chez Natixis IM qui considéraient qu'il n'y avait pas de risque au-delà du choc énergétique de voir cette inflation persistante se matérialiser sur la seconde partie de l'année. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a eu une hausse symbolique à la dernière réunion de politique monétaire. Maintenant on sait que juillet ça n'aura pas lieu. La question c'est de savoir, le marché anticipe encore une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'elle est justifiée ou non au vu finalement de la décélération prononcée de l'inflation? Rien n'est moins sûr et donc c'est quelque chose qui est quand même finalement salué par le marché.
Et ce deuxième semestre qui s'ouvre donc, vous le sentez comment? Est-ce que vous pensez que les marchés seront capables de délivrer la même perf qu'au premier semestre? Ça a été un incroyable semestre quand même qu'on a vécu, un incroyable trimestre aujourd'hui. Regardez aussi Nasdaq 100 par exemple, depuis le 1er janvier en forte hausse et rien qu'au deuxième trimestre, il a gagné le Nasdaq 100 26%. La bourse de Milan plus 15% rien que sur le deuxième trimestre. Le CAC 40 aussi signe son meilleur trimestre en 2 ans, plus 7,5%. Est-ce qu'on va faire pareil au troisième trimestre et au deuxième semestre?
Alors, c'est difficile de sortir sa boule de cristal. Maintenant, ce qu'on observe sur le second trimestre, ce qui a porté vraiment les performances des indices actions, c'était la capacité des entreprises à générer de la croissance bénéficiaire. Et globalement, ce qu'on observe, c'est un petit tassement sur la fin du trimestre, parce que le news flow, donc ce flux informationnel concernant les résultats des entreprises, a cédé place finalement à une incertitude quant au contexte macroéconomique, monétaire, l'arrivée de Monsieur Warsh, une communication à laquelle finalement les marchés doivent petit à petit s'adapter.
Oui.
Et il y a de grandes chances de voir finalement avec la nouvelle séquence de résultats qui s'ouvre. À partir de ce mois, on va sans doute observer encore une fois cette croissance bénéficiaire se matérialiser, des entreprises qui, sur la base des chiffres de croissance qu'on observe, vont sans doute délivrer en termes de performance.
Au même rythme que les publications du premier trimestre. Vous pensez que ça peut, sur un effet de base qui aura bien évolué en plus, vous pensez que ça peut se maintenir sur le même rythme?
Sur le secteur technologique, on ne voit pas pourquoi ça n'interviendrait pas. Et finalement, on observe que globalement, c'est ce secteur qui est en train de tirer finalement la cote, où ce sont certains noms sur différents types de marchés exposés à cette thématique qui sont finalement la locomotive. Donc certes, il y a une certaine concentration, mais globalement, c'est ce qui tire à l'heure actuelle, c'est la locomotive des marchés actions. Donc nous, chez Natixis IM, on considère qu'il n'y a absolument aucune raison de voir le mouvement s'affaiblir sur le début, du moins, du second semestre.
Oui, parce que les publications seront au rendez-vous à vos yeux. Il y aura d'autres grands enjeux, bien sûr, au deuxième semestre, parmi lesquels le pilotage de la politique monétaire par la Fed aussi. Beaucoup de choses dépendront du succès et de la réussite de Kevin Warsh dans sa communication ou son absence de communication. Il le revendique encore aujourd'hui. Hein. Kevin Warsh, qui est lui aussi présent à Sintra, s'est exprimé tout à l'heure. Alors, tout le monde était très curieux de l'entendre sur ce que serait sa stratégie. Voilà ce qu'il a dit, Kevin Warsh, donc c'était il y a à peu près une heure. L'ère où la banque centrale guidait la main des marchés par des promesses à long terme, cette ère doit toucher à sa fin. Il est plus sain, ajoute-t-il, pour l'économie que les investisseurs réagissent aux réalités des données brutes plutôt qu'à nos tentatives de modélisation du futur. Voilà. D'ailleurs, qu'il invite les marchés à jouer avec la maya, à avancer comme ils peuvent en sentant eux-mêmes les murs plutôt qu'on leur allume la lumière. Voilà. C'est avant la Fed d'allumer la lumière et essayer de leur apporter une trajectoire du futur grâce à des modélisations. Ça, c'est fini. Ils vont devoir les marchés faire avec les seules données brutes. Thibaut.
Oui, mais ça me fascine, parce que j'entendais dire qu'il n'est pas dans la logique de Trump. Excusez-moi, c'est du trumpisme total. Hein, je vous rappelle que pendant la dernière conférence de la Réserve fédérale, Kevin Warsh a dit qu'il utilisait aujourd'hui des données classiques et qu'il était ouvert à des données alternatives. Si ça ne vous rappelle pas un peu trumpisme, vous m'excusez, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Et tout simplement parce que le reste de la Banque centrale, qui donne ses votes et donc ses dots, a augmenté ses anticipations. Tout le monde a dit que Kevin Warsh avait fait de même, mais pas du tout. Il est même allé dans un discours en expliquant que fallait pas trop regarder l'inflation, mais plus la croissance. Il a expliqué que l'inflation américaine, c'était que les trois dormus. Je vous rappelle quand même que la dernière fois que la Réserve fédérale a été à son objectif de 2%, c'était début 2021, quand même. Donc pour les trois dormus, quand même, 60 mois, 65, ça va, quoi. Donc il se fout un peu de notre gueule. Donc la réalité, c'est que on est aujourd'hui dans une situation où on a un board de la Fed qui défend son pré carré, mais Kevin Warsh qui est dans une tendance trumpiste qui est très forte. Alors qu'il ne décide pas tout seul et que pour l'instant ça résiste un peu, c'est vrai. Mais il est en train de nous dire, je ne veux pas me bloquer, parce qu'évidemment si vous dites je vais monter les taux, s'il y a ça, ça et ça, quand ça arrive vous êtes obligé de le faire. Donc l'enlever, c'est de revenir. Dire qu'il faut regarder la croissance plus que l'inflation, c'est un moyen d'essayer de ne pas monter les taux. Essayer de trouver d'autres stats que celles qui disent qu'il faudrait monter les taux aux US, c'est aussi ce qu'il dit. Donc on est aujourd'hui dans une trumpisation de la Réserve fédérale.
Je sais pas, sur l'inflation, il dit, notre détermination à ramener l'inflation à 2% est absolue, nous ne pouvons pas nous permettre de déclarer victoire prématurément. La stabilité des prix est le socle sur lequel toute croissance durable repose. Donc l'inflation, il affirme quand même qu'il veut la combattre.
Mais dans le même temps, vous voyez, il a quand même remplacé...
Ce qui est une surprise, on ne s'attendait pas, mais il le confirme, il veut la combattre.
Il a remplacé quand même 10 lignes de communiqué sur comment bat l'inflation, ce qu'il regarde, par « we will deliver ». Ce qui est super, hein, « we will deliver », c'est très cool, mais dire, c'est quand même pas de l'économie, quoi. Et donc, on est un peu dans cette sorte d'auto-conviction que moi, je trouve relativement préoccupante, parce qu'on sort de l'économie pour aller dans une espèce de truc d'injonction. Et donc, on voit bien, à partir du moment où on est Trumpiste, je vous rappelle que Trump explique déjà depuis des années qu'il n'y a plus d'inflation. Donc après, si on peut changer le baromètre quand il ne vous plaît pas, qu'est-ce que ça veut dire, je lutte contre l'inflation? En vrai, on peut être à 3, à 4, dire que c'est pas loin de 2. Enfin, ça veut rien dire. Si on enlève tous les repères, qu'on enlève les règles. Donc moi, je trouve qu'il y a une trumpisation de la Banque Centrale. Je trouve ça très préoccupant. Je trouve que l'idée de ne plus s'engager sur une trajectoire, sur des datas, c'est pas des bonnes nouvelles. Pour autant, pour l'instant, le reste de la Banque Centrale n'a pas abdiqué. Ce sera à suivre. Mais il faut rappeler que en France, on était à 0,3 en inflation en janvier. Donc on a plutôt, hors crise, des situations déflationnistes. Aux États-Unis, on était largement au-dessus des deux avant cette crise. Donc les situations sont différentes.
Je vais faire parler Kevin Warsh à nouveau cet après-midi. Faites comme s'il était face à vous en plateau et que c'est lui qui vous parlait, Thibault Romain. Voilà ce qu'il a ajouté aujourd'hui à Sintra, Kevin Warsh. La crédibilité ne se gagne pas par des discours rassurants répétés à chaque réunion. C'est des discours que vous aimiez bien, manifestement, Thibault. Non, la crédibilité se gagne plutôt...
En carton.
La probabilité, dit-il, se gagne plutôt par la cohérence entre nos actions et nos objectifs. Si le marché est surpris, ajoute-t-il, c'est peut-être parce qu'il a trop longtemps écouté nos promesses plutôt que de regarder nos résultats.
Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Il veut des résultats plutôt que des promesses. Plutôt qu'offrir le futur aux investisseurs, les mettre face au pied du présent et face aux données brutes. Voilà, pourquoi
Thibault,
pas.
Thibault, Jon Snow était pour le dollar fort.
Non mais blablabla. Mais c'est-à-dire que encore une fois, we will deliver. Ça veut dire quoi, un communiqué qui se termine par we will deliver?
L'intendance suivra.
Je veux dire, c'est super de dire écoutez ce qu'on fait et pas ce qu'on dit, mais je veux dire, le mec il a quand même une fête dont 90% n'a pas changé, qui fait la même chose. Donc aller dire non mais faut arrêter les blabla. Enfin je veux dire c'est de la politique, c'est pas de l'économie. Donc quand on dit que ça se trumpise, c'est exactement ça. Et le gros avantage, c'est que quand vous êtes dans un parti qui passe son temps à dire qu'il a gagné, même quand il n'a pas gagné, parce que je vous rappelle qu'ils en sont actuellement à 57 fois victoire de la guerre d'Iran, ben moi ça me rassure pas d'avoir quelqu'un qui dit on va regarder si on a gagné. Donc moi je suis désolé, mais l'idée de dire on prend un baromètre clair.
C'est pas Donald Trump, c'est Kevin Warsh.
Tout le monde peut le regarder. Oui. Enfin, il est quand même nommé par Trump et il fait du Trump.
Et Jerome Powell aussi était nommé par Trump. Bon, je sais pas. Je soupçonne une forme de biais, mais.
Mais regardez le communiqué.
Mais argumenté.
En moyenne, on avait une ligne de changée dans le communiqué d'un mois sur l'autre. Là, il a rayé les trois quarts en disant lol, we will deliver. Enfin, je suis désolé, c'est quand même un peu du Trump. Hein. C'est du Fitzgerald Kennedy. C'est quand même pas du banquier central haut de gamme.
Le dernier communiqué de la Fed ne faisait que 130 mots, la longueur d'un tweet. Romain, votre regard sur ces nouvelles déclarations aujourd'hui de Kevin Warsh, qui l'assume, hein, il le dit clairement aussi, il n'y aura plus de forward guidance. Il l'a dit tel quel tout à l'heure.
Alors, je ne partage pas nécessairement l'avis prononcé de mon homologue à gauche. Disons que globalement...
À gauche, il apprécie Thibault.
Non, mais très bien, moi je suis ravi d'être à gauche. Oui.
Le fait est que on est face à des banques centrales qui ont abandonné cette forward guidance. C'est dans les propos aussi introductifs de Madame Lagarde sur le symposium de Sintra, où globalement on a des banques centrales, notamment la BCE, qui ne veut plus rentrer dans cette logique de forward guidance, parce qu'on est rentré dans un environnement qui est beaucoup plus volatile, dont les chocs exogènes sont en train d'accélérer. L'amplitude, on a encore vu ça avec la crise au Moyen-Orient, ne permet plus finalement aux banques centrales d'ancrer ces fameuses anticipations de marché sur un certain horizon. On est dans le vrai débat de la règle versus la discrétion. Il va falloir, comme le dit Madame Lagarde, passer de la forward guidance à la framework guidance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on doit passer sur l'ensemble informationnel dont dispose la Banque centrale, quelles sont les mesures, quels sont finalement les faits économiques qu'elle va considérer lorsqu'elle va mettre en place sa politique monétaire.
Oui, bah ça c'est oui.
Donc sa fonction de réaction... Oui. Elle reste encore à déterminer. Et Monsieur Warsh nous explique qu'il va délivrer sur ce fameux cadre méthodologique d'ici la fin de l'année. Maintenant, les marchés doivent s'adapter à ce moment de transition.
Oui, bien sûr, et nous tous, hein, manifestement, tous les esprits ne sont pas encore complètement adaptés. Hein. Regardez Thibault, non mais je plaisante, franchement, bien sûr que je plaisante. Mais Kevin Warsh ajoute que l'indépendance de la Fed n'est pas remise en cause, oui ça il n'allait pas dire le contraire. Et alors sur le risque de désynchronisation des politiques monétaires, parce que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le voir avec Christine Lagarde, là, parce qu'on a deux philosophies très différentes. Ben, il explique, Kevin Warsh, et là encore dans le texte, il l'assume, que l'interdépendance de nos économies, certes, signifie que nous, Américains, ne pouvons pas ignorer les vents contraires venus d'ailleurs, mais notre mandat interne, la Fed, reste prioritaire. Nous ne chercherons pas à stabiliser les marchés mondiaux au prix d'une dérive de notre propre inflation domestique. Voilà ce qu'il dit. On revient au texte, quoi, et à l'esprit de ce que doit faire la Fed. Je le vois comme ça. Après, il ne faut pas désynchroniser trop les politiques monétaires, bien sûr. Il peut y avoir des impacts sur l'échange, mais revenir à la base, à savoir, plutôt que de stabiliser les marchés mondiaux, préserver une inflation domestique dans les clous. Ce qu'on n'a pas pu faire aux États-Unis depuis des trimestres et des trimestres, lui-même le reconnaît d'ailleurs. C'est pas si mal, c'est plutôt sain, c'est un diagnostic lucide aussi, Thibault. Moi, pour moi, vous prenez rien dans ce qu'il dit, en fait.
Pour moi, c'est pas ça. C'est que pour moi, c'est une part de flanc, mais je suis pas contre. Après, vous savez, la réalité, c'est qu'on parle beaucoup de désynchronisation de machin. Vous prenez le Japon, les États-Unis, l'Europe, les taux, ils sont tous globalement à un point d'écart de l'inflation. Les écarts, ils sont pas très importants. Il n'y a pas vraiment de désynchronisation. La seule différence, effectivement, c'est que l'Europe, et de là, il faut exclure la France, qui est un cavalier seul, a un déficit budgétaire qui est très faible, qui du coup ne stimule pas trop l'inflation, alors que les États-Unis, plutôt comme la France, a un déficit qui est très élevé, donc il est normal qu'elle stimule un peu plus l'inflation que nous le faisons chez nous. Sinon, il n'y a pas des grosses différences. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas confondre deux choses. La forward guidance, c'est quoi? C'est dire on donne une logique, on donne des indicateurs. Ça ne veut pas dire je me commit sur les 50 prochaines années ce que je vais faire. C'est juste dire je vous donne des clés, puis quand il y a des périodes d'ombre, on dit bah là, on ne voit rien, donc on va voir. Lui, c'est pas ce qu'il dit. Il dit non, mais les gars, on se parle toutes les 6 semaines, ça va. C'est quand même pas exactement la même chose. Dire de l'incertitude momentanée, donc pour l'instant je peux pas accompagner, c'est quand même pas tout à fait pareil, quoi. Lui, il est vraiment en mode bon, allez, ça va, on va pas non plus trop bosser, on se voit dans 6 semaines, on fera le point. Pourquoi pas, mais je veux dire, c'est quand même un style de rupture. Moi, ça me parle pas beaucoup, j'en suis désolé si vous trouvez ça super. Moi, je trouve que les engagements, la logique, trouver des indicateurs, garder les mêmes plutôt qu'en changer tout le temps.
Mais ça marchait pas. Vous-même disiez la dernière fois que la Fed a réussi à, en tout cas, aligner l'inflation sur ses objectifs, c'est en 2021.
Mais justement, c'est exactement ça, Guillaume. C'est que Trump mettait une pression pas possible en menaçant de virer tout le temps le banquier central pour pas qu'il monte les taux. Donc il a pas trop monté les taux. Et on va avec quelqu'un qui nous explique qu'il faut quand même maintenant regarder moins l'inflation et plus la croissance. Donc moi, je trouve qu'on accentue ce côté-là plutôt que revenir dessus.
Bon. Ce sera certes plus volatile, ça on doit s'y attendre, ouais. Ça sera volatile pour les marchés. Maintenant, si on est sur une base informationnelle commune qu'on partage avec l'institution centrale, c'est d'ailleurs la grande théorie de M. Warsh, c'est de se dire que finalement le marché peut filtrer l'information lui-même. Et ce qu'on observe grosso modo dans les décisions notamment prises par la BCE aussi, c'est que le marché anticipait des hausses de taux, donc la BCE a délivré des hausses de taux. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le rôle de la Banque centrale de suivre ce que veut le marché, ou est-ce que c'est le rôle de la Banque centrale d'ancrer finalement ces anticipations de marché au bon endroit? Et ce que nous montre finalement la Banque centrale européenne, et notamment Madame Lagarde, qui était la seule dans ce petit policy panel à avoir augmenté ses taux, on avait la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre et Monsieur Warsh.
C'est la grande méchante louve, là, au milieu.
Et
bah,
finalement, elle se retrouvait avec ses collègues à se rendre compte que potentiellement, il y avait eu une erreur de politique monétaire qui avait été commise sous prétexte que le marché anticipait des hausses de taux et qu'il fallait délivrer.
Alors, est-ce que l'IA va par ailleurs être corne d'abondance de l'économie et de nos sociétés à l'avenir? Kevin Warsh, il y croit aussi, je suis désolé, j'y reviens. Ce qu'il a dit sur l'intelligence artificielle est intéressant. L'IA n'est pas qu'un mot à la mode, c'est un levier structurel de productivité, dit-il. Si nous parvenons à intégrer ces gains dans notre économie réelle, nous pourrons potentiellement atténuer les pressions inflationnistes sans étouffer l'activité par des taux excessivement restrictifs. Donc, ils misent toujours sur l'IA pour à la fois gonfler la croissance, mais sans inflation. Donc, on aurait de la croissance, mais des baisses de taux possibles, parce qu'il n'y aurait plus d'inflation. Ah, il y tient, hein, cette idée. Il y tient, il l'a répété cet après-midi, ce sont ses propos à Sintra.
C'est sa grande théorie, c'est de dire que finalement, on a à l'heure actuelle un choc de demande qui est quand même ultra positif et qui crée des noyaux inflationnistes locaux, notamment sur les micro-composants, sur la mémoire, mais que globalement, une fois passé ce choc d'investissement de CAPEX assez monstrueux, eh bien derrière, vous allez avoir un choc d'offres positives qui sera absolument massif et qui permettra ces gains de productivité. Et donc nous, on reste encore partisans de l'idée selon laquelle, eh bien, si vous parvenez à augmenter les tâches des individus et des travailleurs grâce à la technologie, eh bien, vous pouvez les rendre plus productifs et donc faire des vrais gains de pouvoir d'achat à la fin réelle des ménages.
Et là-dessus, sur l'impact de l'IA, Thibault, pareil, vous demandez à voir, ce qui est logique.
Non, moi, je note juste qu'encore une fois, ils cherchent des excuses pour trouver que tout va être déflationniste. Oui. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Je suis pas sûr d'être d'accord pour les mêmes raisons. Oui. Ce qu'on constate sur l'IA, c'est qu'on a eu cette phase inflationniste. Je vous rappelle, tous les gens qui disaient « j'arrête d'utiliser Claude Code, ça coûte trop cher ». Mais la vraie tendance sur l'IA, c'est que les modèles chinois sont open source, souvent gratos, et donc de plus en plus de pays commencent à basculer vers des modèles chinois. Et donc, en fait, c'est la concurrence des modèles qui va tirer le coup vers le bas, comme toujours. Et donc, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans ce qui se passe, c'est qu'on a une inversion de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est des constructeurs industriels qui gagnent pas d'argent, et les gens qui utilisent des services dessus qui se gavent. C'est comme ça le modèle, hein. C'est-à-dire que les constructeurs auto perdent du fric, et puis tous ceux qui vendent des assurances, des machins, gagnent tous de l'argent. Mmh. Là, on a l'inverse. Tous les acteurs d'IA perdent un pognon, pas possible. Et c'est les gens qui font des puces, qui normalement, d'ailleurs, même pas forcément très technologiques, quand on parle de Micron, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, on est dans un truc un peu inversé, qui donc n'est structurellement pas durable. Soit les gens de l'IA vont gagner beaucoup d'argent, soit ils vont plus pouvoir continuer à surpayer des semi-conducteurs. Mais je crois que, comme toujours, on est dans un moment où c'est la concurrence qui crée la déflation, peut-être même d'ailleurs plus que de la croissance. Et je me demande si on n'est pas un peu dans un moment free, c'est-à-dire le moment où free arrive sur le marché télécom, où les prix s'effondrent, le consommateur y gagne beaucoup, et les entreprises y gagnent pas tellement. Mais le progrès pour le consommateur est énorme. Et je me demande si sur l'IA, on n'arrive pas un peu là-dedans. Donc moi, j'achète bien l'idée que c'est plutôt déflationniste. Je sais juste pas s'il le dit parce qu'il y croit vraiment ou si parce qu'il veut des raisons de pas monter les taux. Mais en tout cas, là-dessus, j'achète.
Bon, on va poursuivre nos échanges ensemble. Il reste 13 minutes jusqu'à la clôture. On entre dans la dernière ligne droite de cette séance. Et le CAC 40 perd 0,9%, 8330 points. Orange abandonne 4,5%. Schneider Electric, qui annonce une acquisition à 3 milliards de dollars, et a du mal à convaincre sur cette acquisition. Ils n'ont pas un track record fameux en termes d'acquisition. Schneider, le titre perd 3,5%. Et puis à la hausse, Renault. Un message rassurant pour le marché, hein. C'est ce qu'estiment pas mal d'investisseurs après la confirmation par Renault de ses objectifs en amont de ses résultats qui seront publiés dans quelques semaines. Renault, donc, qui maintient ses perspectives, gagne un peu plus de 5%. Et puis, au rebond, celui des Sidor Luxottica qui gagne 4,7%. On en parle avec Thibaut Prébé et Romain Aumont pour le deuxième semestre. Thibaut, est-ce que vous le sentez bien le marché là, après l'incroyable performance du premier semestre, où on a revu en plus un élargissement des performances, un élargissement de la hausse, parce qu'il n'y avait pas que la tech. Le Russell 2000 a vécu son meilleur premier semestre aux États-Unis, son meilleur depuis 1991, plus 25% au premier semestre.
Oui, moi je partage assez ce que disait Antoine tout à l'heure. Moi, je suis assez circonspect sur ce qu'on se met déjà parce qu'on est un peu vite. Et donc, je trouve que le potentiel qui reste assez faible. Ensuite, parce qu'on a quand même une inversion de la dynamique américaine qui n'est pas vue. Une inversion économique où les chiffres sont moins bons, puis une inversion de flux. C'est-à-dire qu'on a eu un premier trimestre d'explosion de résultats, mais de très forte détérioration des flux de trésorerie générés. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, on est passé de GAFAM qui, avant, sortait énormément de cash, à des gars qui nous collent des augmentations de capital à coût de 80 milliards, qui baissent les rachats d'actions et qui ont besoin de dépenser énormément pour préparer la suite. Et donc, dans cette situation, en fait, on a des flux qui sont maintenant vendeurs de capitaux au lieu d'être acheteurs de capitaux. Et ça, c'est quand même un énorme marqueur pour un marché. On est sorti du marché américain très générateur de trésorerie, on est devenu consommateur de trésorerie. Et donc, je pense que, sans être très inquiet sur le long terme, si j'avais 20 ans devant moi et placé de l'argent, je n'hésiterais pas du tout à faire de la tech, mais je serais quand même très peu surpris qu'on respire un peu au second semestre.
Ok. Bon, qu'est-ce qu'il faut privilégier du coup pour la suite ? L'Europe ou les États-Unis déjà ?
Moi, pour l'instant, je privilégierais la prudence. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'est un peu emballé sur la tech, que des métiers où on fait pas de cash, c'est quand même toujours un peu gênant avec la période. Voilà, on est dans des valorisations pour Arpaille SpaceX qui sont devenues complètement délirantes. Donc moi, j'avoue que je serais bien sur rien. Et si je devais choisir quelque chose pour le second semestre, je ferais plus l'Europe que les US. Mais je pense que le moment de rester un peu cash, le temps que l'exubérance se détende un peu, serait bienvenu.
Ok, l'Europe où on avance quand même dans la mise en œuvre du rapport Draghi d'après l'Institut Montaigne. Il a été présenté ce rapport, Romain, il y a 18 mois. Et d'après l'Institut Montaigne, 30% des préconisations ont été mises en œuvre. Alors on peut se dire 30% seulement en 18 mois, c'est pas énorme. Mais enfin, c'est vu l'ampleur de ce rapport et du chantier proposé, c'est pas mal 30% déjà en 18 mois, non ?
Je dirais peut mieux faire.
Ouais, d'accord.
Peut mieux
L'Europe
faire,
avance, mais pas assez.
Ouais. On n'avance pas assez, on a une hétérogénéité des juridictions et le nœud central, c'est l'union des capitaux et le nœud central, c'est être capable d'avoir un titre de dette adossé sur l'entièreté de l'économie européenne. Tant que ces deux piliers de croissance finalement, de densification et d'approfondissement du marché européen ne seront pas mis en place, eh ben on aura nécessairement des appels d'air provenant du marché américain. Et c'est là où je ne partage pas nécessairement l'avis de mon voisin, c'est de se dire que...
Votre voisin de gauche.
Comment ?
Votre voisin de gauche, comme vous disiez.
Il n'y a pas tellement de voisin de droite.
Si, à ma gauche.
Non.
Je voulais être précis.
Il pourrait dire mon voisin gauche, mon voisin de gauche.
Le fait est qu'on a encore une demande interne qui est forte. Et ample aux États-Unis, on a revu la croissance du premier trimestre à la hausse. Certes, c'est porté par l'investissement des entreprises et plus trop par la consommation des ménages. Mais je suis désolé, quand on voit finalement un taux de croissance trimestriel de l'ordre de 0,5, tandis que en zone euro, on fait du moins 0,1, eh bien la dichotomie des trajectoires de croissance va nécessairement encore impacter au second semestre les trajectoires des marchés. Et le moment européen, on nous le rappelle tout le temps. Nous, on pense que c'est peut-être 2027, quand on va avoir finalement une banque centrale européenne qui, hypothétiquement, devra baisser ses taux, parce qu'on sera dans un environnement qui sera profondément désinflationniste, des effets de base négatifs absolument massifs. Et on a toujours cette question de la résolution du conflit en Ukraine, à laquelle, petit à petit, on s'approche. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que finalement le moment européen dont on parle ne va pas intervenir plutôt en 2027 et entre-temps, eh bien, on aura toujours cette thématique de l'IA, des entreprises qui vont continuer à générer de la croissance bénéficiaire qui tirera finalement les flux des investisseurs.
Oui, oui, encore l'IA pour terminer, enfin en tout cas faire accomplir notre deuxième semestre et peut-être 2027, le retour de l'Europe à la faveur de baisses de taux de la Banque Centrale Européenne qui auront peut-être été anticipées d'ici là malgré tout parce que l'inflation a ralenti déjà. On voit avec la baisse des cours du pétrole, on est sous les 72 dollars sur le baril de Brent aujourd'hui. Donc on a effacé la guerre sur les cours pétroliers et ça se traduit déjà dans l'inflation zone euro à 2,8% au mois de juin en nette décélération d'ores et déjà. Vous pensez que là ça va continuer à ralentir en ligne droite l'inflation et que ce sera un moteur peut-être même quand même dès cette année des marchés européens ou pas à ce point?
Si les marchés sont capables d'anticiper justement une banque centrale européenne qui soit un petit peu plus accommodante. Mais nous, ce qu'on pense chez Natixis, c'est qu'on va avoir globalement une décélération prononcée de l'inflation parce que l'inflation européenne, grosso modo, c'est l'énergie. Quand vous avez structurellement un prix du baril qui va converger vers les niveaux d'avant-guerre, voire en deçà, eh bien, vous allez avoir des effets de base absolument massifs. Et là, charge à la Banque Centrale Européenne de pouvoir produire des prévisions d'inflation à horizon 3 ans, sans prendre en compte le fait que, globalement, on n'est plus du tout au niveau auquel on se positionnait en mars sur les matières premières.
Et on regardera aussi ce que nous réservent les publications donc des entreprises en détail. On en parlera dans quelques minutes, d'ailleurs, après la clôture des marchés. Ce premier semestre qui vient de s'achever, quel a été son principal événement pour vous, Thibault, Romain? On a vu alors le yo-yo incroyable sur les cours du pétrole, l'IPO de SpaceX, on en a vu des choses, l'arrivée de Kevin Warsh, on n'est peut-être pas obligé d'en reparler, mais si vous voulez, l'envol des cartes mémoire, je sais pas, l'or qui s'est effondré, enfin, c'est un sacré premier semestre qu'on vient de vivre là, Thibault. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous?
Oui, moi, ce qui m'a quand même plus marqué, c'est ce premier grand raté américain, c'est-à-dire que je pense que l'économie, tout ce qui a...
L'Iran. Donc ce premier grand raté, de quoi vous parlez?
Des États-Unis en Iran.
En Iran, oui, d'accord. Non, je croyais que c'était Kevin Warsh.
Non, mais Kevin Warsh, il n'a pas encore le temps de faire des ratés, laissez-lui quelques semaines d'accord. quand même. Okay. La réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui ont des conséquences qui vont baisser. Moi, je pense qu'on va garder de l'inflation assez élevée. Je suis plutôt déflationniste à terme, mais ça met toujours du temps à baisser l'inflation. On va se retrouver avec des hausses du prix du gaz, les réserves sont vides, le gaz risque d'être cher. Donc, avant que ça rebaisse, ça va prendre un peu de temps. Le pétrole n'est pas si bas non plus. Donc, on a un peu de temps. Par contre, voir les États-Unis attaquer un pays, arriver à rien, se retrouver en moins bonne situation et payer pour réparer le pays, c'est quand même un changement dans le mode de fonctionnement, dans l'impérialisme, dans tout le rapport de force de la région qui est très structurel et qui va avoir des conséquences de très long terme. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est structurant.
C'est-à-dire que les Émirats ou les pays du Golfe vont peut-être, pour leur défense, plus faire confiance à la Chine, par exemple, qu'aux États-Unis. Il y a des contrats comme ça qui
vont être automatiques. Ouais, et puis les États-Unis, à chaque fois qu'ils vont menacer tout le monde, en fait, il y a quand même une union qui se fait un peu sur l'Europe, qui s'organise. Oui. Il y a maintenant des pays qui sont quand même en train de dire, vous rendez quand même compte que l'Iran est en train de dire, si vous continuez à faire chier le Liban, on veut bien que vous continuez à nous taper dessus. Enfin, je veux dire, le niveau de stress a quand même changé de manière radicale dans la communication. Donc, il y a quand même un sentiment que les États-Unis peuvent diriger où ils veulent par deux phrases. En fait, on est un peu dans le garçon qui crie au loup, quoi. C'est-à-dire que la 50e fois que Trump crie au loup, plus personne n'écoute. C'est un changement radical parce que le pétrole est encore monté puis qu'il est descendu, sur l'économie mondiale, ça change rien. C'est un mouvement, mais enfin, en fait, on s'en fout. Que le Bitcoin, c'est pour ça pris une méta-claque. Ouais. Ça change rien. Que le rapport de force géopolitique mondiale change, que les pays qui étaient attaqués finissent par réussir à se défendre d'une manière très différente d'avant, ça change complètement les rapports de force qui peuvent être envisagés. Donc je pense que c'est quand même un des événements qui restera très longtemps, alors que le reste de ce semestre aura été finalement important, mais anecdotique.
Romain, qu'est-ce que vous retenez, vous, particulièrement du premier semestre? Il y avait aussi l'IPO de SpaceX. C'est pas du tout pour vous pousser à en parler que je le dis, mais ce serait marrant. Il y a aussi l'or, il y a d'autres choses encore. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé?
Nous, c'est toujours la question géopolitique. Avant l'Iran, il y a eu la question vénézuélienne, il y a eu la question groenlandaise. La question, c'est de savoir comment l'administration américaine, sur la seconde partie du mandat et en fonction des résultats des élections des mid-terms, va finalement se montrer au monde. Et là, je partage l'avis, c'est de se dire qu'on a peut-être ce bruit géopolitique qui continue à avoir de l'impact. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a perdu de la crédibilité de la Fed? C'était le grand risque du premier semestre. Ben moi, je considère que M. Warsh, back to basics, comme Mme Lagarde le dit, il revient aux fondamentaux de la communication de la Banque centrale. Et qu'est-ce qu'on observe? Finalement, un dollar qui est en train de s'apprécier. Et qui est la valeur refuge de l'autre? Ben, c'est l'or. Donc globalement, si vous avez un marché qui croit dans la crédibilité de la Banque centrale à délivrer sur son mandat ou son mandat dual pour la Réserve fédérale, eh bien nous sommes tout à fait...
Non, mais effectivement, vous apportez une idée là. Le dollar quand même, depuis Kevin Warsh a fait sa première conférence de presse, président de la Fed, décision de politique monétaire, le dollar a bien monté. Ça, c'est pas un signe de réancrage, d'une forme de crédibilité Thibault, on vous pousse un peu là-dessus, bien sûr. On n'est pas des Warsh adeptes.
Non, je crois pas du tout. Je crois que le dollar, il y a une crise qui s'est refermée, donc on a un peu inversé la tendance, mais je pense qu'on est à des niveaux niveaux d'équilibre aujourd'hui sur l'euro-dollar, qui sont des niveaux historiques relativement stables, et je pense pas qu'il y ait une histoire hyper décalée là-dessus. Donc laissons le temps à mon Kevin Noir de nous montrer s'il est trumpien, si le reste du board est en résistance, ou si en fait c'est juste un nouveau style et que tout va bien. On en saura le plus.
Il est possible dans les marchés d'investir aussi dans le ferroviaire. Oui, il y a des valeurs ferroviaires américaines d'ailleurs, cotées. Tout à l'heure, les experts de Canopy AM nous les ont présentés parce que c'est en plus assez ESG pour combattre le réchauffement. Et intéressant, leurs arguments, ces valeurs, à retrouver en replay sur l'application BFM Business, c'était dans la séquence thème d'avenir. Elle est disponible en replay et en podcast d'ores et déjà. Il est 17h32, dans 3 minutes la clôture, on entre d'abord dans la data room. Tout converge ici dans la data room. Thibaut, Romain, êtes-vous prêts à nous livrer vos data exclusives?
Yes.
Oui. Une minute chacun, donc, pour une data forte. Thibaut, votre data ce soir, 112 milliards de dollars.
Oui, 112 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est aussi le montant total des introductions en bourse aux États-Unis cette année. Alors, pourquoi? C'est évidemment un montant monstrueux. C'est beaucoup SpaceX, mais pas que. Parce que sur SpaceX, c'est déjà quasiment autant que toute l'année dernière réunie. Mais c'est quand même, air de rien, globalement, 2022, plus 23, plus 24, plus 25 déjà fait. Alors même qu'Anthropic ou d'autres pointent leur nez. Donc c'est une année d'appel au marché qui est énorme. Alors moi, la question que je me pose, c'est un, qu'est-ce que ça dit? Qu'on est prêt à accepter des valorisations parfois complètement délirantes pour des sociétés qui vont encore avoir besoin de se diluer. Donc ça montre qu'on est dans une exubérance. Et puis, deux, qu'on est encore dans une situation qui a changé, je vous le disais, sur l'appel de cash, l'appel au marché qui est énorme, les programmes de rachat d'actions qui baissent. Et donc, je finis par me demander si, au bout d'un moment, on risque pas d'avoir un marché qui va un peu se ramasser, sans doute comme nos amis belges ce soir à la Coupe du Monde.
Qui joue contre eux
Aucune idée, mais pour se faire ramasser, ça, n'importe qui fonctionnera. Voilà, c'était le petit... Pour essayer de ramener le seum anti-belge.
Non, pas Romain, non. T'es pas d'accord là-dessus. Bon. Romain, votre chiffre, votre data, vous aussi, vous avez une minute pour nous étonner ce soir. 70,9%, c'est quoi?
70,9%, c'est le taux de croissance des exports coréens rapportés au même mois de juin de l'année dernière.
Wow, les exportations coréennes ont augmenté de 70%, incroyable, sur un an.
Sur un an. On atteint les 100 milliards de dollars pour la première fois. Cool. 100 milliards de dollars, bon, bien évidemment, 44% de ces 100 milliards, c'est principalement des micro-composants. Ouais. On a finalement un excédent commercial coréen qui se gravite autour de 38 milliards de dollars par mois. C'est, pour un ordre d'idée, le double de ce que produit finalement l'Allemagne. Donc ça vient finalement nous ancrer dans une réalité où on a peut-être une économie mondiale maintenant qui suit elle aussi une dynamique en K. On a des grands vainqueurs de cette transformation industrielle, économique à l'œuvre. Et on a finalement des pays dont les modèles industriels doivent être réinterrogés. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de voir que globalement, qui a contribué le plus aux imports de cette économie coréenne? Eh bien, vous avez la Chine, premièrement, 90% en glissement annuel, et les États-Unis, 70%. On a donc des locomotives technologiques, peut-être un duopole technologique qui commence à se mettre à l'œuvre, mais c'est tout à fait révélateur des transformations qu'on observe.
Intéressant, effectivement. Romain Aumont est avec nous, l'ATCCM, et Thibaut Prébé, auteur de Démographie, la bombe tranquille, le président de ECAT. Bonne soirée à tous les deux. Dans un instant, la clôture, en direct, on retrouvera Antoine, à tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Une clôture en baisse pour commencer ce second semestre du côté de la Bourse de Paris. Moins 0,79% pour le CAC 40 qui termine à 8337 points avec des volumes d'échange relativement moyens pour la période, 4,3 milliards. Donc quand même pas mal travaillé. L'Eurostox 50 se replie de 0,72%. Il y a quand même le DAX à Francfort qui termine légèrement dans le vert, plus 0,18%. IBEX à Madrid, moins 0,38%, moins 0,3% pour la Bourse de Londres. Et du côté de Milan, c'est moins 0,25%. C'est donc le DAX à Francfort qui signe la vraie performance du jour. Le CAC 40, donc, moins 0,79%. Qu'est-ce qui a pesé? Toutes les valeurs, on va dire, résilientes. Les valeurs les plus défensives de la cote. On a Orange qui recule de 4,5% à 15,77€. Engie, moins 3,77€ à 26,55€. Ou encore Carrefour, moins 3,38€ à 15,70€. À noter des prises de profit aussi sur un certain nombre de secteurs qui, eux, ont bien marché sur le semestre écoulé, notamment ST Microelectronics. Hein, plus forte hausse du CAC 40 depuis le début de l'année. Le titre perd 3,3% à 62,37€. À noter parmi les valeurs en hausse, des dossiers un petit peu value. bout, entre guillemets, des dossiers qui ont un petit peu été délaissés au premier semestre. C'est d'ailleurs un tir groupé, hein, véritablement. Et si l'Orlo-Sotica qui termine sur une hausse de 5,5%, le secteur auto stimulé par des bons chiffres d'immatriculation du côté du marché français, notamment une vraie grosse percée de l'électrique, hein, 28% de part de marché sur le mois écoulé. Renault plus 4,78% à 26,28€. Stellantis plus 3,27 à 5,15. Et puis les fameux disruptés de l'IA, à savoir Dassault Systèmes qui regagne 3,2% à 18,39€. Capgemini plus 3,14 à 90,72€. Donc voilà, vraiment de la gestion value en tête des progressions du CAC 40. Sur le SBF 120, SES signe la plus forte hausse du jour à plus 10,7,89€ et Viridien la plus forte baisse, moins 7,8% à 77,30€.
Romain Dobrit avec nous pour Bourse Direct. Romain, première séance de ce nouveau semestre, moins 0,8 pour le CAC, pas terrible alors que Wall Street est stable. Une nouvelle fois, l'Europe sous-performe par rapport au marché américain pour ce début de semestre. Comment sentez-vous les choses pour la suite après cette clôture ?
Bien, du côté de Wall Street, on l'a vu sur la tech américaine, des dégagements et ça pourrait se poursuivre. Donc, à s'attendre à de la volatilité, à des retracements un petit peu appuyés. On le voit, Micron moins 8, mais Meta plus 10. Donc, il y a aussi des arbitrages qui se font sur des dossiers en retard. Si on regarde l'Europe, c'est un peu différent. Malheureusement, sur l'indice CAC 40, c'est modérément haussier tant qu'on est au-delà de 8259 points. Il faut repasser 8462 pour réactiver la dynamique haussière. On avait accéléré il y a 3 semaines, on patine depuis. Pour moi, l'indice à regarder en Europe, c'est l'indice Eurostock 50 qui donne des signes d'hésitation entre deux niveaux clés. 6202, le support à préserver absolument au risque d'une accélération baissière de 4-5%, ou 6328 points qui permettraient de réactiver la dynamique haussière, de poursuivre à la hausse et d'aller chercher de nouvelles extensions en direction de 6450 au moins.
Merci Romain, vous nous accompagnez jusqu'à 18h. On va tout de suite, vous tous qui nous suivez, qui nous regardez peut-être, vous apporter un max de pistes d'investissement aussi pour la suite. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec ce soir, Étienne Monceau pour Zone Bourse, il nous accompagne. Bonsoir Étienne, ravi de vous retrouver. Ce CAC qui recule. Bonsoir, en clôture, Guillaume. Alors de 0,8%, 8337 points pour cette entame de deuxième semestre. Les valeurs qui sont distinguées, alors à la baisse, on est curieux d'avoir votre avis sur Schneider Electric. Ce titre, Schneider, ce soir, perd 3%. Étienne, après avoir annoncé une acquisition pour un peu plus de 3 milliards de dollars, qu'est-ce qui cloche dans cette acquisition? Est-ce que c'est juste un prétexte pour vendre Schneider, qui s'en sort très très bien, bien sûr, depuis le début de l'année? Enfin, comment vous regardez le mouvement du jour sur le marché?
Alors c'est possible que ce soit des prises de bénéfices sur le titre Schneider, mais pour le coup, j'aime bien associer le cours de bourse, la variation du jour, à la news, parce que moi je vais dans ce sens-là aussi. Le rachat de Cognite à 3 milliards de dollars, il est selon moi un peu abusé, et surtout il laisse passer un message, c'est que Schneider Electric n'a pas été capable de développer l'architecture que Cognite a développée. Parce que pour rappel un petit peu, la société qu'ils ont rachetée, c'est pas une entreprise qui fait des modèles d'IA, c'est une entreprise en fait qui a travaillé énormément sur l'architecture nécessaire pour faire fonctionner des modèles agentiques correctement sur des bases de données industrielles. Donc c'est vraiment l'outil, enfin je veux dire, l'achat il est parfaitement cohérent avec le business de Schneider. C'est juste un petit peu dommage de voir que Schneider doit payer 3 milliards pour acquérir cette technologie, alors qu'on pourrait estimer qu'ils auraient pu le développer en interne. En revanche, le point positif, c'est que quand même cette entreprise, cette jeune entreprise du segment de l'IA tout de même, eh bien, elle fait quand même 170 millions de chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas rien. Généralement, ces entreprises-là, elles sont rachetées à des multiples qui peuvent aller même au-delà de 30 fois le chiffre d'affaires. Mmh. Là, on est sur 17 fois, il me semble. Donc, l'achat est cohérent, mais peut-être un peu cher et révélateur de tout simplement une déception vis-à-vis de Schneider aurait pu peut-être le développer en interne pour moins de 3 milliards de dollars.
Oui, et ils ont, sur leurs acquisitions, ils ont un track record un peu moyen, on peut le dire, quant à Schneider Electric, Étienne.
Alors les intégrations de Schneider Electric, elles sont on peut pas dire qu'elles sont plutôt moyennes, mais en tout cas le groupe n'a jamais été mis en avant pour être un serial acquéreur qui crée de la valeur via ce canal de croissance externe. Donc je pense pas que dans la tête des gens ce soit vraiment ce côté d'intégration passée qui explique la variation du jour. Non.
Romain, on vous retrouve. Moins 3% donc Schneider Electric à l'entame de son deuxième semestre boursier. On espère que ce ne sera pas un prémisse de ce que fera le titre pour la suite. Graphiquement, comment vous le sentez après cette baisse ce soir?
Bien, même si Schneider a formé un nouveau plus haut historique le 22 juin, on manque un peu de momentum récemment. Déjà la semaine dernière, on a formé ce qu'on appelle une couverture en nuage noir, c'est-à-dire que la bougie de la semaine du 22 juin a ouvert au-delà de la bougie de la semaine précédente et a clôturé sous la médiane. C'est pas un très bon message en haut de marché, donc prudence de ce côté-là. Ceci dit, on préserve, et c'est le support à surveiller, 275,50 en clôture ce soir. Donc tant qu'on est au-delà, eh bien, on peut aller chercher des extensions en direction de 296 dans un premier temps. Mais attention, à la rupture de 275,50, ça validerait ce message de manque de momentum et de risque de retracement pour aller chercher un premier niveau cible aux alentours de 254.
Vous nous direz dans un instant, Étienne, quel est votre meilleur espoir sur le marché pour ce nouveau semestre. D'abord, au premier semestre, pour vous, quelle a été la grande surprise, la pépite européenne qui vous a le plus positivement surpris depuis le 1er janvier là.
Elle nous a surpris, mais on l'avait en portefeuille, donc on avait parié dessus quand même. On est content que ça se soit réalisé. C'est ASML. ASML, elle a été énormément vendue au cours de 2024 parce qu'il y avait des doutes sur son carnet de commandes. On commençait à voir peut-être des signes de ralentissement, et c'est très dangereux pour des valeurs qui sont pricées comme des valeurs de croissance. Et le titre avait nettement reculé. Puis ensuite, derrière, il y avait le fait que ASML utilise des composants américains, et donc les Américains avaient mis la pression sur l'entreprise pour éviter de vendre certaines machines en Chine, puisque la Chine, on sait, ils veulent être autosuffisants sur tout, et du coup, ce sont des concurrents futurs certains de ASML. Donc il y avait cette pression des États-Unis. Il y avait quelques catalyseurs baissiers, et puis en fait, ces catalyseurs baissiers, ils ont été intégrés dans les guidance du management, donc le marché en a pris compte, on va dire. Et puis ensuite, il y avait boulevard devant, et l'entreprise a non seulement bénéficié du bull run sur l'ensemble du segment semi-conducteur et notamment de la mémoire, et elle avait ces catalyseurs baissiers qui étaient un petit peu derrière elle. Et effectivement, la performance a été exceptionnelle sur ce premier semestre.
ASML, donc, votre pépite du premier semestre, Antoine ?
J'ai le droit à des pépites ?
Ah oui, les vôtres.
Alors, on a vu hier Mersenne, l'ancien Carbone Lorraine, oui. Spécialiste du traitement de minéraux critiques. Là, on est dans la problématique des terres rares, il n'y a pas d'autre mot, et notamment à destination de l'industrie et de l'électricité. Donc, ils sont très exposés au boom de l'intelligence artificielle via les data centers, le cuivre, l'équipement électrique, etc. C'est un titre qui gagne 74% depuis le 1er janvier.
Mersenne. Fallait la voir venir, celle-là. Ouais, ouais.
L'ancien Carbone Lorraine. Et au niveau européen, la renaissance de Nokia. Ça reste quand même fou, à travers toute l'infrastructure de communication pour les données, pour l'IA, etc., pour l'ensemble de l'industrie, finalement, là aussi. Et cette optique globale, le cours a été doublé. Depuis le 1er janvier, on est à plus 102%. Le plus bas, c'était à 5,13. Et on vient de terminer la séance là à 11,37 après un plus haut à 15 sur le premier semestre. Donc voilà, c'est la renaissance de Nokia, c'est la renaissance de Carbone Lorraine via les dynamiques de développement actuelles. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant.
Et bravo à ceux qui l'avaient vu venir, effectivement. On espère plein de bonnes surprises pour ce nouveau semestre qui s'ouvre. Votre pari à vous, Étienne, pour les marchés européens, une valeur qui pourrait se détacher là?
Moi, j'aime beaucoup Airbus en ce moment. Airbus et Air Liquide, mais là, je vais parler plus spécifiquement d'Airbus. Pour cette même raison d'asymétrie sur les catalyseurs haussiers et baissiers, Airbus, il y avait des catalyseurs baissiers qui étaient notamment au niveau de sa supply chain et de Pratt & Whitney qui avaient des vrais problèmes sur les moteurs qu'elle fournissait à Airbus. Et je pense que ça a été intégré dans les cours et que maintenant, c'est derrière nous. Et on a vu aussi un truc assez drôle avec Airbus, c'est que quand le pétrole était haut, on disait que ça permettait à Airbus de se démarquer par rapport à Boeing, parce que ses avions sont plus économes, plus économes, et donc les compagnies aériennes avaient plus tendance à privilégier les A320 Neo. Et ensuite, quand le pétrole redescend, on se dit les airlines vont se remettre à fonctionner correctement à fond, et puis elles vont recommander des avions. Donc en fait, on a cette impression de narratif dont elle a bénéficié à la hausse du pétrole comme à la baisse. Et voilà, pour la même raison que tout à l'heure un petit peu sur ASML, quand on fait l'état des lieux des catalyseurs haussiers et baissiers, j'ai l'impression que tout ce qui était baissier, ça a été pricé, c'est derrière nous, et que maintenant il y a un boulevard haussier devant nous pour Airbus.
Et vous, Romain, d'un point de vue graphique, technique, vous les voyez où les meilleurs potentiels là, pour ce nouveau semestre ?
Mais Airbus, c'est pas mal, effectivement. Tant qu'on est en train de déborder un niveau important, 197,15, la prochaine cible, ça pourrait être 239, donc de nouveaux sommets historiques. Moi, je regarde toujours un peu la tech chinoise, même si je sais que c'est compliqué. Il y a des signaux intéressants sur Baidu. Puis je vois Novo Nordisk qui se réveille aussi. Peut-être des choses à regarder de ce côté-là pour diversifier un petit peu les secteurs, puisqu'on voit que ça patine un peu sur l'intelligence artificielle. Enfin, ça patine. Oui, il y a quelques dégagements sur les gros scores récents.
Antoine.
Bah, toujours cette optique de recovery et de gestion value. On le voit, encore une fois, on le redit, hein, les leaders du CAC 40 aujourd'hui, c'est tous les dossiers qui ont été délaissés au premier semestre. Et c'est vrai que là, sur la tech chinoise, ça rejoint un petit peu les opinions d'Alexandre Baradez, hein, qui vient souvent nous voir aussi. Il voit aussi un momentum favorable sur la tech chinoise. Moi, je rêve d'un réveil du secteur du luxe.
Bon, alors, peut-être on en rêve tous.
Ça va mettre le temps. Mais peut-être sur la fin du troisième trimestre et le début du quatrième trimestre, si les tendances de consommation et si l'agitation géopolitique se calme un peu, on pourrait avoir un réveil massif du secteur du luxe. Et évidemment, c'est Kering qui a le plus à gagner. LVMH qui soutiendrait encore plus le CAC 40 et qui nous permettrait peut-être, nous à Paris, avec notre indice vedette, de surperformer pas mal l'Europe boursière, alors qu'on aura peut-être tendance à prendre des bénéfices sur tout ce qui a bien marché sur le premier semestre.
Une valeur qui se distingue ce soir à la hausse, alors que le CAC 40, on vous rappelle, a terminé à moins 0,8%, 8337 points. C'est Air Liquide qui gagne 1,7%, Étienne. Air Liquide, alors, confirme son lien avec les data centers et l'IA. C'est pas un énorme investissement, mais c'est un grand symbole en revanche. Air Liquide va investir 170 millions de dollars aux États-Unis pour une usine de SK Hynix, le géant des cartes mémoire. C'est pas rien.
Oui, alors effectivement, c'est pas rien, mais à l'échelle de Air Liquide, c'est pas non plus un investissement colossal. S'ils investissent 170 millions et que c'est avec un TRI en tête de, je sais pas, une dizaine de pourcents, ça veut dire que les flux qui vont être générés chaque année, ils sont pas non plus extraordinaires dans les bits de Air Liquide, ça c'est sûr. Mais Air Liquide, grâce à leur gaz industriel, et en particulier les gaz inertes qui sont utilisés dans la conception de semi-conducteurs, mais aussi dans la fabrication additive et ce genre de technologies de pointe, voilà, ils sont déjà présents depuis longtemps dans ces technologies de pointe. C'est juste que c'est comparé à leurs autres activités, ça reste voilà une petite partie de leur business. Mais le dossier Air Liquide, de toute façon, il a toujours été excellent, il le reste. Je vois pas comment on pourrait être négatif sur Air Liquide actuellement. C'est un ratio très nord de l'ordre de 2, donc on est sur un rendement annualisé de 11-12% pour un bêta de 0,8, qui donc un amortissement assez intéressant de la sensibilité au marché. Donc franchement, c'est un super titre. Et là, effectivement, le marché accueille bien la news, même si dans les ordres de grandeur, on reste sur quelque chose d'assez petit.
Vous disiez, je vois pas comment on peut être négatif sur Air Liquide. On va voir si graphiquement, lui, il est, Romain. Est-ce qu'on a le droit d'être négatif sur Air Liquide ou c'est complètement interdit graphiquement?
Voilà, pour l'instant, non, c'est pas possible. Ouais. C'est haussier, pas d'invalidation, etc. On a eu un peu de flottement il y a un an de ça. Ça s'est repris assez rapidement. Moi, je m'attendais à des extensions un petit peu plus baissières que les 140. Mais pour l'instant, c'est haussier. La prochaine cible, c'est 190,36.
Bon, et puis Romain, vous avez une pépite, vous aussi, à proposer à nos auditeurs et téléspectateurs. On y va, hein, on se lâche, parce qu'on, comme on est en début de semestre, c'est toujours le moment où, comme ça, on ouvre le capot et on dit ce qu'on a en tête, les plus grands rêves qu'on a au fond de soi. Vous, votre pépite pour ce semestre, d'un point de vue graphique, c'est quoi?
Pour diversifier, alors c'est peut-être pas la pépite, mais c'est quelque chose à regarder qui permet de diversifier, c'est General Mills, qui graphiquement est en train de se réveiller après une longue baisse et qui vient de publier aujourd'hui. Elle était en hausse de 6%, mais il y a manifestement du potentiel haussier. C'est dans l'agroalimentaire et donc ça peut être aussi un arbitrage intéressant dans les semaines qui viennent.
Renaud nous écrit sur le Félix BFM Bourse à propos d'Abivax. Ouais, c'est vrai que c'est l'une des valeurs phénomènes de cette semaine boursière. Abivax hier a gagné 38% après les essais cliniques finalement rassurants. Et tout à l'heure, le titre était suspendu parce que Abivax a annoncé lever aux États-Unis 600 millions de dollars. Et la cotation a repris et c'est une nouvelle hausse là après la suspension de cotation. C'est une nouvelle hausse en clôture d'Abivax d'1,7% à la Bourse de Paris. Plus 1,7 ce soir, donc après le plus 38 d'hier. Est-ce que ce titre doit aller encore beaucoup plus haut désormais après ces résultats cliniques d'hier? C'est vrai, assez encourageant. Étienne.
Alors moi, je connais vraiment pas bien le dossier Abivax, mais je connais bien la maladie parce que j'ai des personnes de mon entourage qui sont concernées par le RCH. Je sais que ça touche environ 5 millions de personnes dans le monde. Je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça fait du bien de voir une biopharm qui réussit en France. Et effectivement, cette levée de fonds aux États-Unis, bah pourquoi elle se fait aux États-Unis ? Bah pour la profondeur des marchés de capitaux. Et la suspension de cotation, c'était pour éviter les arbitrages cross-market. Après, pour commenter vraiment le cours en lui-même, et est-ce qu'il a encore du potentiel haussier et baissier ? Là, pour le coup, je vais m'abstenir et je vais rester neutre.
Oui, ce titre Abivax, c'est très spéculatif, bien sûr, ça va très vite. Les biotechs sont un univers réservé à des spécialistes, mais beaucoup de particuliers veulent s'engouffrer dans ces courants ascendants très violents, puis parfois des courants descendants. Le titre avait beaucoup souffert quand même, on s'en rappelle début juin, et puis finalement des nouvelles cliniques meilleures hier qui ont propulsé le titre. Les experts de Kepler nous disaient hier, Romain, que sur son cours de clôture de lundi, ce titre Abivax devrait, pourquoi pas, doubler maintenant qu'on a ces résultats plus positifs sur ce médicament dont nous parlait Étienne. Le titre pourrait doubler, nous disent-ils, par rapport au cours de clôture de lundi. Est-ce que graphiquement, vous vous dites ça également, que la hausse d'hier, plus 38, et celle d'aujourd'hui doivent se poursuivre ?
On a évoqué en début de semaine, la réintégration de 88 permettait de cibler la résistance majeure à 120-40. On a buté précisément dessus aujourd'hui, on termine un petit peu en dessous, 117,5. Il faut passer ce niveau de 120-40 pour effectivement dupliquer le trading range précédent et aller chercher dans ce cas-là 153,10. Pour l'instant, on s'est arrêté contre cette résistance majeure. C'est le débordement de 120-40 en clôture qui nous en dira plus.
Et puis aux États-Unis, Antoine, un petit événement aujourd'hui. Alors d'abord, sachez que Nike a publié ses résultats, c'était hier soir. Le titre a ouvert en baisse, il gagne désormais 4%. Meta, de son côté, va proposer des infrastructures cloud pour vendre ses capacités excessives de calcul dans l'IA.
C'est ça.
Le titre Meta gagne 9%, incroyable. Et puis, il y a un nouveau venu sur le marché américain, un acteur on en croise parfois à vélo ou à pied aussi, on risque de se faire écraser même.
On les croise beaucoup, d'ailleurs.
Trottinette. On en croisera désormais aussi à Wall Street. Trottinette et vélo électrique.
Lime, vert et blanc. On les voit dans toutes les grandes villes du monde. Et la holding de tête s'est introduite aujourd'hui à Wall Street. Alors, les cotations n'ont pas commencé. Ça s'appelle Neutron Holdings. Ça a quelque chose d'étonnant dans le cycle de vie de cette entreprise, de les voir rentrer en bourse, alors que leur business model est quand même... J'allais dire difficile, hein. C'est du service avec assez peu de marge, avec quand même une flotte de hardware qui est soumise à réparation, dépréciation, etc. Mais non, ils y croient, ils se lancent dans le grand bain. Donc les cotations n'ont pas encore commencé, mais à suivre. Donc Neutron Holdings.
Merci à toute la team. Étienne Monceau pour Zone Bourse. Romain Dobry qu'on salue chez Bourse Direct. Et Antoine, vous le retrouverez Antoine dans un instant pour le débrief de la séance avec Edwige Chevrillon dans le 18-19. À tout de suite Antoine. Le CAC termine ce soir à -0,8. On se retrouve demain pour un BFM Bourse un tout petit peu raccourci parce que BFM Business sera au cœur des universités d'été d'Aix-en-Provence. Vous pourrez les suivre tout au long de l'après-midi. Et nous, on vous retrouvera à partir de 17h pour la dernière heure des marchés. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.